France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Rosa Parks, celle qui s'est tenue debout en restant assise. Elle est l'une des rares femmes impliquées dans le mouvement pour les droits civiques connu du grand public, au même titre que Martin Luther King ou Malcolm X. Et pour cause. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, dans l'Alabama, Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc lors d'un trajet en bus. Courageuse transgression. Embarquée par la police, elle sera condamnée à une amende pour avoir enfreint les lois ségrégationnistes du sud des États-Unis. Mais son acte de résistance va avoir un impact retentissant et déclencher une longue campagne de boycott des bus. Une mobilisation de masse courageuse, déterminée, qui permet également à une autre figure d'émerger, celle de Martin Luther King. La vie de Rosa Parks est souvent résumée à son coup d'éclat, sa désobéissance civile en restant assise dans le bus, mais on oublie de raconter à quel point cette femme fut une militante aguerrie et persévérante bien avant son geste célèbre. Notre invitée aujourd'hui, Maboula Soumaoro, maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à l'Université de Tours. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marie Kirchen, rédaction chef Franck Cognard. Chargé programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
14 septembre 1996. Ce soir-là, Bill Clinton est sur la scène du gala annuel de la fondation du Congressional Black Caucus, une organisation qui regroupe des parlementaires afro-américains à Washington. À ses côtés se tient une femme, Rosa Parks. C'est elle que le président américain est venu honorer aujourd'hui en lui décernant la médaille de la liberté, soit la plus haute décoration civile qu'il puisse attribuer. Rosa Parks est alors âgée de 82 ans. Comme à son habitude, elle est très élégante. Elle porte une robe aux manches bouffantes. Ses cheveux désormais grisonnants sont soigneusement attachés. La tête légèrement inclinée sur le côté, la militante a cet air humble qu'on lui connaît. Et Bill Clinton déclare.
En refusant de céder sa place, elle a déclenché le boycott des bus de Montgomery et contribué à lancer le mouvement des droits civiques. Au cours des années qui ont suivi, elle est restée attachée à la cause de la liberté, s'élevant contre l'injustice ici et à l'étranger. Surnommée la première dame des droits civiques, Rosa Parks a démontré, selon les mots de Robert Kennedy, que chaque fois qu'une personne s'élève contre l'injustice, elle envoie une petite vague d'espoir qui, croisée à des millions d'autres, peut faire tomber les murs de l'oppression. À vous, Rosa Parks, merci et que Dieu vous bénisse.
Alors que le président Clinton se tourne vers elle pour lui remettre son certificat, Rosa Parks esquisse enfin un petit sourire. Elle qui est devenue célèbre et admirée pour avoir défié la loi avec tout ce que cela charrie de peur, de souffrance, de détermination. Voilà que les plus hautes sphères du pouvoir l'acclament désormais. Oui, Rosa Parks a définitivement gagné son combat. Et partout, son nom est devenu synonyme de courage. Pourtant, l'histoire de Rosa Parks, c'est d'abord un malentendu. Dans bien des récits, cette femme est décrite comme une petite couturière qui se serait retrouvée au cœur de la bataille pour les droits civiques par accident, presque malgré elle. On nous a raconté maintes fois, c'est parce qu'elle rentrait du travail complètement éreintée qu'elle a refusé de céder son siège, ce fameux jour de décembre. Une version des faits qui édulcore complètement le personnage. Une approche que Rosa Parks elle-même n'hésite pas à tacler dans son autobiographie.
Les gens ont répété à l'envi que je n'avais pas cédé ma place ce jour-là parce que j'étais fatiguée. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas particulièrement fatiguée physiquement, pas plus qu'un autre jour après une journée de travail. Je n'étais pas si vieille, bien qu'on m'imagine toujours comme une petite grand-mère. J'avais 42 ans. Mais s'il y avait une chose qui me fatiguait, c'était de courber les chines.
C'est clair, Rosa Parks est avant tout une activiste. Elle tire son engagement des injustices dont elle a été témoin tout au long de sa vie, dans ce Sud, en proie au racisme le plus crasse. Elle est née Rosa Louise McCauley en 1913 en Alabama. Son père est charpentier, sa mère institutrice. Mais le couple se sépare quand elle n'a que 2 ans. Sa mère retourne vivre avec ses deux enfants chez ses parents près de Montgomery, la capitale. L'Alabama est l'un des États du Sud des États-Unis où sévissent les lois dites Jim Crow. Mises en place peu de temps après l'abolition de l'esclavage, elles imposent la ségrégation dans tous les lieux publics. Les cafés, les hôpitaux, les salles d'attente, les toilettes et bien sûr les transports. Les blancs et les noirs sont ainsi censés être séparés, mais égaux. Une vaste fumisterie, un apartheid qui ne dit pas son nom. Car les inégalités sont partout, et la jeune Rosa le voit bien. Enfant, elle est obligée de se rendre à pied dans une école éloignée, une baraque inconfortable qui a dû être construite par les noirs eux-mêmes. Alors que les petits blancs, eux, profitent du ramassage scolaire pour se rendre dans un beau bâtiment payé par les impôts de la population, noire inclus. À ces discriminations s'ajoute une violence ouvertement raciste. De la part des policiers d'abord, un continuum jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a le Ku Klux Klan, bien sûr, cette organisation secrète qui prêche le suprémacisme blanc, organise régulièrement des descentes dans les quartiers noirs, où ils mettent le feu à des églises, des écoles, quand ils ne s'en prennent pas directement aux êtres humains qu'ils rouent de coups, voire assassinent. La haine à l'état pur. Rosa Parks s'en souvient dans son autobiographie.
La violence atteignit un tel niveau que mon grand-père gardait toujours une arme à proximité, un fusil à deux coups. Nous avions mis au point un plan pour fuir au cas où les Klansmen feraient éruption chez nous. Nous nous couchions tout habillés, prêts à déguerpir en cas de problème. J'ai le souvenir clair de mon grand-père qui disait « Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir s'il débarque ici, mais je flingue au moins le premier qui franchit cette porte. » J'entendais souvent des histoires de Noirs que l'on retrouvait morts sans savoir ce qui leur était vraiment arrivé. Il n'y avait rien d'autre à faire que de ramasser les corps pour les enterrer. Aujourd'hui, je me demande parfois comment nous pouvions vivre dans cet état de peur permanente. Mais c'était la seule vie que je connaissais.
À 16 ans, alors que sa grand-mère vient de tomber malade, Rosa est contrainte d'arrêter le lycée pour prendre son premier emploi de couturière. À 19 ans, elle se marie avec Raymond Parks. Nous sommes alors en 1932. Il est barbier, il vit à Montgomery. Et il est très militant. D'ailleurs, c'est ce qui a plu, entre autres, à Rosa. Raymond est adhérent de la NAACP, l'Association Nationale de Défense des Gens de Couleur, une organisation très importante dans l'histoire de la lutte des Afro-Américains. Rosa pense à l'époque qu'il n'y a pas de femmes dans ce mouvement. Mais en réalité, il y en a une. Et elle le découvre dans le journal en apercevant une ancienne camarade d'école sur une photo. Alors en décembre 1943, elle se rend à un meeting du comité local pour tenter de lui parler. Et c'est ainsi qu'elle intègre le groupe. Elle y travaille aux côtés du président de la section Edgar Nixon, un syndicaliste et militant des plus actifs de la ville. À ne pas confondre avec l'autre, devenu président bien sûr. La jeune trentenaire est chargée de tenir un long, trop long registre qui recense tous les cas de violence et de discrimination. Elle se mobilise notamment contre les violences sexuelles que de nombreuses femmes noires subissent de la part des hommes blancs. Mais Rosa Parks est aussi militante pour le droit de vote. Officiellement, les hommes noirs l'ont obtenu en 1870, les femmes en 1919. Mais des décennies plus tard, les Afro-Américains, hommes comme femmes, sont très peu nombreux à pouvoir réellement exprimer leur suffrage dans les États-Unis du Sud. Pensez donc, les bureaux d'inscription sur les listes électorales ont mis en place mille et une fourberies pour leur rendre la tâche impossible. Alors Rosa Parks, Raymond et d'autres animent une « Voters League », comme elle le raconte dans cette interview de 1985.
Nous avons organisé des réunions sur les inscriptions pour que les gens commencent à s'inscrire sur les listes électorales. Très peu d'entre nous étaient inscrits au début des années 1940. Et il était pratiquement impossible pour une personne noire, quelle que soit son intelligence, de s'inscrire sur les listes électorales, à l'exception de quelques rares personnes sélectionnées par la communauté blanche.
Lors de l'inscription, chaque aspirant électeur doit réussir un test d'alphabétisation qui est généralement utilisé comme prétexte pour rejeter la demande des personnes noires. Rosa Parks tente de s'inscrire une première fois, une deuxième fois. Elle est systématiquement recalée. Pourtant, elle est persuadée d'avoir bien répondu. Alors la troisième fois, elle prend grand soin de recopier ses réponses sur un papier qu'elle garde précieusement, histoire de disposer d'une preuve pour attaquer l'administration. Mais cette fois, c'est la bonne. En 1945, À l'âge de 32 ans, elle reçoit enfin sa carte d'électrice. Alors qu'elle et ses amis continuent le travail de terrain, d'autres batailles devant les tribunaux. En mai 54, la Cour suprême rend une décision absolument capitale. Dans son arrêt Brown contre le Bureau de l'éducation, elle déclare la ségrégation raciale inconstitutionnelle dans les écoles publiques. Elle rappelle que celle-ci produit des inégalités pour les écoliers. Cette victoire fait naître un grand espoir. Et si on arrivait à mettre fin à la ségrégation via les tribunaux ? Le raisonnement de la Cour pourrait très bien s'appliquer à d'autres domaines de la vie publique, faire jurisprudence. Alors, quelle sera la prochaine étape ? Bien sûr, la question des transports publics, ce lieu d'humiliation quotidienne, est dans toutes les têtes. À Montgomery, la population noire représente les trois quarts de ceux et celles qui prennent le bus, les blancs ayant généralement assez d'argent pour s'offrir une voiture. Et il se trouve que les bus sont régis par tout un ensemble de règles ségrégationnistes. Les 10 places à l'avant sont réservées aux blancs. Et même si aucun n'est à bord, les noirs n'ont pas le droit de s'y asseoir. Les 10 places du fond sont pour les noirs. Quant aux 16 du milieu, elles sont utilisées pour augmenter la taille de la section blanche ou de la section noire. Ça dépend de la fréquentation. Mais attention, hors de question que des personnes de couleurs différentes se retrouvent assises côte à côte. Si un blanc veut s'installer sur le siège alors qu'il n'y a plus de place, c'est toute la rangée qui doit être libérée pour les passagers, par les passagers noirs. Soit 4 personnes contraintes de se lever pour qu'une seule puisse s'asseoir. De la même manière, un noir n'a pas le droit de passer au sein de la section blanche, comme explique Rosa Parks dans cette interview qui date de 1956.
Oui, il est déjà arrivé qu'on me refuse l'entrée dans des bus car je ne voulais pas payer à l'avant puis faire le tour jusqu'à la porte arrière.
Comment ça ? Vous voulez dire que vous deviez payer votre billet à l'avant et ensuite faire le tour pour entrer par la porte arrière ?
Oui, c'était la coutume si le bus était bondé et que les passagers blancs bloquaient la partie avant.
Et même s'il pleuvait ou qu'il faisait mauvais temps, vous deviez payer votre billet à l'avant et marcher sous la pluie jusqu'à l'arrière du bus pour y monter ?
Oui, c'est ça.
Il y a une femme particulièrement remontée contre ces mauvais traitements. Elle s'appelle Joan Robinson. Cette professeure d'anglais à l'Université d'État de l'Alabama dirige le Women's Political Council, une organisation qui milite pour les droits des femmes noires. Elle a gardé un souvenir cuisant d'altercation avec des chauffeurs et veut que les choses changent, et vite. Alors pour elle, c'est sûr, il faut organiser un boycott. En mai 1954, son organisation envoie un courrier au maire de Montgomery pour l'avertir. Si la situation dans les transports ne s'améliore pas, il y aura boycott. Cause toujours, bien sûr, la lettre restera sans réponse. Mais quelques mois plus tard, en mars 55, un incident attire l'attention de l'universitaire. Une adolescente, Claudette Colvin, est arrêtée par la police pour avoir refusé de céder sa place à une blanche. Écoutez comment celle-ci raconte la scène lors d'une interview en 2024.
Je revenais de l'école et je suis montée dans un bus. Le chauffeur m'a demandé de céder ma place à une passagère blanche. J'ai refusé parce que je trouvais cela injuste. Il n'y avait plus de place. Il a demandé aux 4 élèves de se lever pour que cette dame blanche puisse s'asseoir. 3 des écolières se sont levées, mais je suis restée assise. Il restait une place en face de moi, mais elle a refusé de s'asseoir en face de moi parce qu'à l'époque, une personne blanche n'était pas censée s'asseoir en face d'une personne noire. J'ai dit que je n'allais pas me lever parce que j'avais payé mon billet et que c'était mon droit constitutionnel.
Claudette Colvin doit bientôt passer devant le juge pour enfants. Et si son affaire était l'occasion de mettre en accusation la ségrégation dans les bus, mais cette fois devant la justice. Joan Robinson, Rosa Parks et le syndicaliste Edgar Nixon rencontrent l'adolescente pour discuter de cette idée. Courageuse et déterminée, elle accepte. Il faut dire que Claudette Colvin est déjà très militante. Elle fait partie du conseil des jeunes de la NAACP dont s'occupe Rosa Parks. Mais des doutes finissent par émerger. À seulement 15 ans, a-t-elle réellement les épaules pour supporter une telle pression ? Bientôt, on découvre qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Faire de cette adolescente le visage de la cause est désormais trop risqué. Les médias pourraient utiliser cette information contre elle. Non. Pour incarner ce combat, les militants savent qu'ils ont besoin d'une figure irréprochable, que l'ensemble de la communauté noire, et notamment ses pasteurs, pourront soutenir sans réserve. Une femme respectable, qui sera plus à même de susciter la sympathie des Blancs. Suivez mon regard. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Rosa Parks.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
9 mois tout juste après l'arrestation de Claudette Colvin, c'est au tour de Rosa Parks de refuser de céder son siège. Connaissant son engagement, on est en droit de se demander si tout ceci était organisé dans le but de déclencher une mobilisation. Rosa Parks niera toujours avoir prémédité quoi que ce soit. Non. Ce jeudi 1er décembre, répétons-le, elle rentre tout simplement chez elle après une journée à reprendre des chemises dans le grand magasin de Montgomery. Plongée dans ses pensées, elle ne fait pas attention à l'identité du conducteur. Or, il s'agit du chauffeur détestable qu'il avait rudoyé 12 ans plus tôt et qu'elle évite depuis, comme la peste, préférant toujours attendre le bus suivant. Mais le temps qu'elle réalise, il est déjà trop tard. Alors Rosa Parks s'assoit sur l'un des sièges de la partie centrale. Mais à l'arrêt suivant, plusieurs Blancs montent à bord. Le chauffeur jette un coup d'œil dans son rétro et constate que l'un d'entre eux n'a pas trouvé de place. Alors, sur un ton glacial, il ordonne aux voyageurs noirs de libérer une rangée. Un homme et deux femmes se lèvent, mais pas Rosa Parks. Je savais très bien que plus on se soumettait, plus ils nous maltraitaient, commente-t-elle dans son autobiographie. Alors que le chauffeur menace de la faire arrêter, elle répond calmement « Eh bien, vous n'avez qu'à faire ça. » Écoutons-la raconter la suite.
Quand les deux policiers sont montés dans le bus, le chauffeur m'a montré du doigt et il a dit qu'il avait besoin des sièges, que les trois autres s'étaient levés, mais que celle-là refusait. Lorsque les policiers se sont approchés de moi, l'un d'eux m'a demandé si le chauffeur avait réclamé que je me mette debout et j'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Pourquoi vous ne vous levez pas ?» J'ai répondu que je ne pensais pas avoir besoin de me lever. Je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous nous malmenez ?» Il m'a dit « Je ne sais pas, mais la loi est la loi et vous êtes en état d'arrestation. »
Rosa Parks est alors jetée en prison. puis libéré sous caution quelques heures plus tard. Son procès est programmé au lundi suivant, le 5 décembre. Quand Joan Robinson apprend la nouvelle, elle est en colère. Cette fois, c'en est trop. Le boycott s'impose. La dirigeante du Women's Political Council tape rageusement un texte appelant ne pas emprunter les bus le lundi suivant, le jour de l'audience. Aidée par deux étudiantes, elle passe la nuit entière à reproduire l'appel sur une machine à renéotyper. Au petit matin, elle a les yeux cernés, mais peut-être fière de son butin. 35 000 tracts que quelques étudiants vont pouvoir distribuer dans les quartiers noirs de la ville. Et voici ce qu'on y lit.
Encore une fois, une femme noire a été arrêtée et jetée en prison pour avoir refusé de quitter sa place assise dans le bus au profit d'une personne blanche. C'est la deuxième fois depuis l'affaire de Claudette Colvin qu'une femme est arrêtée pour cette raison. Il faut que cela cesse. Les Noirs ont des droits. Et si les Noirs arrêtent de prendre le bus, ceux-ci ne seront plus rentables. Si nous ne faisons rien pour nous opposer à ces arrestations, elles continueront. La prochaine fois, c'est peut-être à vous que cela arrivera, à votre fille ou à votre mère. Cette femme sera jugée lundi. Nous demandons donc à tous les Noirs de ne monter dans aucun bus ce jour pour protester contre cette arrestation et ce procès. Ne prenez pas le bus pour aller travailler, pour aller en ville, pour aller en cours, pour aller n'importe où ce lundi. Vous pouvez vous permettre de rater l'école une journée. Si vous travaillez, prenez un taxi ou marchez. Mais s'il vous plaît, enfants et adultes, ne prenez aucun bus ce lundi.
Voilà, la machine est lancée. De son côté, Edgar Nixon contacte une vingtaine de pasteurs et les exhorte à relayer le mot d'ordre lors de leur sermon du dimanche. Bien, mais tout cela sera-t-il suffisant ? Le lundi 5 décembre au matin, Joan Robinson a le ventre noué. Elle sait bien que de nombreux membres de la communauté noire dépendent des bus pour rejoindre leur lieu de travail et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi. Alors, vont-ils suivre la consigne ? Anxieuse, la militante a les yeux rivés sur les premiers bus du matin, comme elle le décrit dans cette archive.
Le 5 décembre 1955, je n'oublierai jamais ce jour car beaucoup d'entre nous n'étaient pas allés se coucher cette nuit-là. Nous étions restés debout à attendre le passage des premiers bus pour voir s'il y avait des passagers. C'était une matinée froide, nuageuse. La pluie menaçait de tomber et nous avions peur que les gens montent dans les bus s'il se mettait à pleuvoir. Mais lorsque les bus ont commencé à rouler, il y avait juste un ou deux passagers dans certains, aucun dans d'autres. Nous avons commencé à réaliser que les gens coopéraient et qu'ils n'allaient pas prendre le bus ce jour-là.
Mais oui, la population noire de Montgomery n'en peut plus des brimades. Alors tout le monde s'est organisé. Les compagnies de taxis noirs ont accepté d'acheminer les travailleurs au prix d'un ticket de bus. Ceux qui possèdent un véhicule transportent leurs amis, leurs voisins, covoiturage. À son procès, Rosa Parks est reconnue coupable d'avoir enfreint les lois sur la ségrégation avec amende à la clé. Mais cette condamnation ne chagrine aucunement ses avocats, bien au contraire. Car le but est bien de faire aussitôt appel pour que son affaire remonte devant un tribunal plus important afin d'intenter le procès des règles ségrégationnistes, une sorte de stratégie de la rupture, cher au célèbre avocat français Jacques Vergès, en gros, on fait le procès d'une loi, pas celui ou de celle qui ne l'a pas respectée. Le soir même, un meeting est prévu pour décider de la prolongation ou non du boycott. Quelques pasteurs et leaders militants se retrouvent en amont pour une réunion en petit comité. Et ils tombent d'accord sur la nécessité de créer une nouvelle organisation pour porter la mobilisation. Ce sera la Montgomery Improvement Association, AMIA. Mais certains pasteurs un peu craintifs rechignent à s'engager à visage découvert. Ce qui a le don d'exaspérer le bouillonnant Edgar Nixon qui se met à pester. Mais enfin, comment au diable allez-vous mener une protestation si vous ne voulez pas que les Blancs soient au courant ? Les femmes, elles, n'ont pas hésité à monter au front. C'est dans cette ambiance tendue qu'un jeune pasteur de 26 ans rejoint la réunion. Il est sensible aux arguments d'Edgar Nixon. Alors il répond que lui, il est prêt à s'engager. Cet homme, c'est Martin Luther King. Il est arrivé à Montgomery il y a seulement 15 mois. Un homme éduqué, doté d'un charisme certain, alors c'est décidé, ce sera lui, le président de la MIA. Le soir, lors du grand rassemblement à l'église baptiste de Hall Street, Martin Luther King se lance de sa voix puissante, sur le fond comme sur la forme, dans une exhortation à la solidarité et à l'action.
Alors que nous nous préparons à ce qui nous attend, engageons-nous avec une détermination redoutable. Soyons solidaires. Travaillons ensemble. Ici même, à Montgomery. Quand les livres d'histoire seront écrits à l'avenir, quelqu'un devra dire « Ici vivait un peuple noir. Un peuple qui a eu le courage de défendre ses droits. Et qui, ainsi, a injecté une signification nouvelle dans les veines de l'histoire et de la civilisation. Voilà ce que nous allons faire. Que Dieu nous permette de le faire avant qu'il ne soit trop tard. »
Pleine à craquer, l'église vibre sous les applaudissements. En un discours, mais quel discours ! Martin Luther King vient de devenir le porte-parole de la révolte. Dehors, des haut-parleurs retransmettent les débats pour les centaines de personnes qui n'ont pas pu entrer dans le bâtiment. Les organisateurs ont expliqué à Rosa Parks qu'elle n'avait pas besoin de préparer l'intervention. Pas très étonnant, si ce sont des femmes qui ont lancé la mobilisation, ce sont désormais des hommes qui s'imposent comme les leaders. Le machisme n'a pas de couleur. Une fois les discours terminés, la foule doit répondre à la question cruciale : faut-il s'arrêter là, sur cette victoire d'un jour, ou s'engager dans un boycott plus long ? Tous ceux qui sont pour la prolongation sont appelés à se lever. Le moment est solennel, quelques personnes se dressent, puis d'autres, et bientôt, c'est toute la salle qui est debout pendant que dehors on crie « Yes !» pour faire entendre sa voix. Trois jours plus tard, les représentants de la MIA sont reçus par la compagnie de bus et par la municipalité à qui ils présentent les revendications du mouvement qui sont un traitement respectueux de tous les passagers dans les bus, l'embauche de chauffeurs noirs et l'occupation des sièges par ordre d'arrivée, les blancs commençant par l'avant et les noirs par le fond. Et il n'est même pas question de réclamer la fin de la ségrégation dans les transports, tellement celle-ci paraît impossible à obtenir. Et pourtant, même ces demandes, très raisonnables, essuient une fin de non-recevoir. Le boycott va donc durer. Alors on met en place les grands moyens. La MIA lance un central téléphonique pour mettre en relation celles et ceux qui ont besoin d'un transport et les bénévoles qui acceptent de les conduire. Des églises se cotisent pour acheter des minibus. C'est tout un système parallèle qui sort de terre, avec 32 points de rendez-vous, 20 voitures de particuliers, 14 bus d'église et un service qui va de 5h du matin jusqu'à minuit. Mais les représailles ne se font pas attendre. La police maltraite les voyageurs qui attendent des véhicules sur le bord de la route. Elle harcèle les chauffeurs de taxi. Le maire, lui, se vante d'avoir adhéré au White Citizen Councils, un réseau de suprémacistes blancs. Du côté des grévistes, pour rester unis face à l'adversité et maintenir le moral des troupes, des réunions sont organisées deux fois par semaine dans les églises. Et ensemble, on prie, on chante. Et pendant quelques instants, alors que ces voix entremêlées réchauffent le cœur, on oublie un peu le coût des sacrifices. Le mois suivant, la violence des ségrégationnistes augmente encore d'un cran. Le 30 janvier 1956, une bombe vise la maison de Martin Luther King. Puis, deux jours plus tard, celle d'Edgar Nixon. Rosa Parks, elle, reçoit sans cesse des appels téléphoniques où, à l'autre bout du fil, des inconnus menacent de la tuer. Elle perd également son emploi. En février, la municipalité ressort fébrile une vieille loi poussiéreuse interdisant les boycotts qui seraient sans raison valable et fait procéder à l'arrestation de pas moins de 115 militants, dont Parks et King. Mais ce n'est pas ça qui va faire cesser le mouvement, comme le promet lors d'un meeting le pasteur Ralph Abernathy, bras droit du révérend King.
Il est vrai que 115 d'entre nous ont été inculpé par un grand jury. Pourtant, à ce jour, il n'a pas été prouvé que nos actions soient illégales. Continuons ensemble. Notre combat ne doit pas cesser.
En réalité, ces arrestations massives sont une bien mauvaise stratégie de la part de la mairie. Car bien loin de calmer le jeu, ce nouveau rebondissement passionne désormais la presse nationale. Fascinés par le charisme du Dr. King, les journalistes le surnomment carrément le Moïse moderne de l'Alabama. Il apparaît à la télé, fait la couverture des magazines, et devient bientôt un porte-parole reconnu de la cause noire à l'échelle nationale. Pendant ce temps, les mois passent. Mars, avril, mai, juin. Et comme la municipalité de Montgomery ne veut rien entendre, eh bien le boycott se poursuit. Malgré les sacrifices quotidiens, malgré la menace d'être agressé par des blancs haineux et revanchards, la communauté noire de la ville persiste et continue à partager ses voitures ou à marcher le long des routes jusqu'à s'en user les chaussures. La bataille est également judiciaire. Alors que la procédure d'appel de Rosa Parks est rejetée, son avocat décide de changer de stratégie. Il dépose un recours devant la Cour fédérale du district visant à établir l'illégalité au regard de la Constitution de la ségrégation dans les bus. En juin 1956, la Cour rend son jugement et condamne le règlement en vigueur dans les bus. Fureur du côté des suprémacistes, le conseil municipal décide alors de faire appel à la Cour suprême. Bien mal lui en prend, car quelques mois plus tard, la Cour confirme ce jugement. Le 20 décembre 1956, plus d'un an après le début du boycott, la décision est très officiellement notifiée à Montgomery, ce que Martin Luther King prend plaisir à communiquer lors d'une conférence de presse.
Ce matin, le décret tant attendu de la Cour suprême des États-Unis sur la ségrégation dans les bus est arrivé à Montgomery. Ce décret exprime dans des termes extrêmement précis que la ségrégation dans les transports publics n'a pas de valeur légale ou sociologique. Au vu de ce décret et du vote unanime de la Montgomery Improvement Association il y a un mois de cela, le boycott des bus qui dure depuis un an est officiellement fini. Dès demain matin, les citoyens noirs de Montgomery emprunteront les bus sans aucune discrimination.
Le lendemain, Martin Luther King, Edgar Nixon et quelques autres remontent pour la première fois dans un bus après 381 jours de conflit sous les crépitements des flashs des photographes. Mais les journalistes se demandent où est Rosa Parks. Eh bien, celle par qui tout est arrivé a été contrainte de rester à la maison pour prendre soin de sa mère, malade. Et personne n'a visiblement songé à trouver une solution pour lui permettre de vivre ce moment historique. Alors, des journalistes insistants et respectueux viennent la chercher chez elle le lendemain. Ils la photographient assise dans un bus, le regard tourné vers la fenêtre, un homme blanc assis derrière elle. La photo restera et sera bientôt dans tous les livres d'histoire. L'année suivante, Rosa Parks décide de quitter Montgomery. Il lui est devenu trop compliqué d'y retrouver du travail après avoir tant incarné le combat. Elle s'installe alors avec sa famille à Détroit, mais n'arrête pas de militer pour autant. Elle est présente lors de la fameuse marche sur Washington en 1963, puis lors de la campagne de Selma en 65. De 1964 jusqu'à sa retraite en 1988, elle travaille pour le représentant au Congrès, John Conyers, très engagé en faveur des droits civiques. Elle meurt en 2005 à l'âge de 92 ans. À l'annonce de son décès, partout, les hommages fleurissent. Sa dépouille est même exposée deux jours dans la rotonde du Capitole à Washington, afin que des milliers de citoyens puissent se recueillir devant son cercueil. Un honneur habituellement réservé aux anciens présidents ou aux grands officiers militaires, mais pour Rosa Parks, il fallait bien ça.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Rosa Parks. Pour en parler avec nous, notre invitée Maboula Soumaoro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à l'Université de Tours et vous connaissez bien cette période de l'histoire des États-Unis. Alors, pour évoquer Rosa Parks, commençons peut-être par restituer le contexte. Quelle est la situation des Afro-Américains en décembre 55, au moment où Rosa Parks refuse de céder son siège et la condition des Noirs au-delà des bus et des transports?
Alors, si on parle de l'année 1955, on se trouve dans ce moment qu'on a qualifié comme le mouvement pour les droits civiques, qui souvent est limité aux années 50 ou 60, alors que les historiens, depuis une vingtaine d'années, je pense à Jacqueline Dowd-Hall, ont parlé du long mouvement pour les droits civiques qui aurait commencé dès les années 1930. Mmh. Et donc, tout ça nous permet de revenir, en vérité, aux conséquences de la guerre de sécession, aux conséquences de l'abolition de l'esclavage et de l'interventionnisme fédéral dans la vie des États du Sud. C'est vraiment les États du Sud qui vont nous intéresser ici. On parle de l'Alabama dans le cas de Rosa Parks. Donc, après la guerre de sécession, il y a vraiment eu un effort mené par les autorités fédérales pour faire appliquer les nouvelles lois abolitionnistes et les premières lois liées aux droits civiques de ces anciens esclaves. Et donc, vous avez le 13e, 14e et 15e amendement. Le 13e qui a aboli l'esclavage, le 14e qui a octroyé la citoyenneté aux anciens esclaves et le 15e dont vous avez parlé dans le documentaire qui a octroyé le droit de vote aux hommes africains-américains. Mais par contre, ce qui s'est passé ensuite, c'est un refus des États du Sud d'accepter l'autorité du gouvernement fédéral.
Décidément.
voilà. En se disant, nous avons des droits en tant qu'État, nous ne sommes pas assujettis aux velléités de Washington et nous allons tout remettre en place. On va dire qu'il y a eu une période faste de 10 années entre 1867 et 1877. C'est la reconstruction, c'est les premiers hommes élus au Parlement des États. Et à partir de 1877, le gouvernement fédéral se retire de la question, du Sud et laisse le Sud faire
le champ libre.
Et oui. D'où le premier vote des lois ségrégationnistes.
Mais alors, la lutte pour les droits civiques, on peut dire quand même que la décennie 1950, parce qu'à 1960, c'est l'acmé quand même du combat.
Exactement, puisque c'est le temps des victoires.
Mais
c'est
oui.
Le temps des victoires. Mais la lutte a été menée avant ce temps des victoires.
Alors, en mai 1954, au temps des victoires, donc en plein milieu, il y a cette première décision. Décision très importante de la Cour suprême sur la ségrégation, c'est l'arrêt Brown Board of Education qui porte sur le système éducatif. Quelle est exactement la portée de cette décision? En fait, qu'est-ce qu'elle change?
Alors, donc ce décret de la Cour suprême, alors présidé par un juge très important qui s'appelle le juge Earl Warren et qui va être, on va dire...
Le même que celui de la commission pour Kennedy?
Exactement.
Ah, d'accord.
voilà. Donc, c'est le même qui a vraiment une importance capitale dans cette histoire progressiste de la Cour suprême des États-Unis. Donc, cette décision de 1954, donc cet arrêt, qui porte sur les écoles publiques et sur l'éducation, l'enseignement public aux États-Unis, va mettre un terme à des décennies de ségrégation qui avaient été, on va dire, 60 ans auparavant, complètement acceptées par la Cour suprême avec cet arrêt Plessy versus Ferguson.
Ah oui, 1896. Ça.
1896, qui portait pas sur le monde de l'éducation, mais les transports en commun, mais en tout cas qui entérinait l'idée que la séparation des groupes raciaux blancs et noirs aux États-Unis n'impliquait aucune infériorisation, n'impliquait aucune hiérarchie. Mmh. Et donc c'est ce qui avait été un peu la philosophie du temps. En 1954, le juge Warren et la Cour suprême des États-Unis met un terme à cette philosophie en disant que la ségrégation est fondamentalement inégalitaire et qu'il faut remédier à cela.
Et on a parlé, enfin j'ai osé parler d'apartheid qui ne dit pas son nom, c'était un peu ça ou pas?
Oui, je pense que ce serait plutôt un apartheid qui dit son nom.
Oui, carrément.
Donc, c'est un apartheid codifié, vous avez parlé du système dans le documentaire du système Jim Crow, donc on parle vraiment de toute la législation relative à l'organisation de la séparation des Noirs et des Blancs aux États-Unis.
Alors on l'a vu également dans le récit, il y a beaucoup de femmes à la base de cette mobilisation, Claudette Colvin, Rosa Parks bien sûr, Joan Robinson, et pourtant... Ce sont des hommes qui prennent le leadership. Est-ce l'éternel problème d'une histoire, avec un grand H, écrite par les hommes?
Une histoire écrite par les hommes, puisque là, quand vraiment, je veux dire, c'est l'exemple parfait, parce que on a beaucoup parlé des églises. On oublie souvent que Martin Luther King, à l'origine, est un pasteur. Oui. Il est fils de pasteur, petit-fils de pasteur. Et donc, l'église, dans l'histoire africaine-américaine, est le premier espace politique. Et l'église est dirigée par des hommes. Cela est vrai. Par contre, les églises sont majoritairement fréquentées par des femmes. Donc là, se pose vraiment la question de la représentation. Évidemment, le leadership est devenu masculin et dans la psyché collective, peut-être qu'on se souvient des hommes, mais les petites mains, les organisatrices, ça a été des femmes. Donc Rosa Parks fait partie d'un ensemble de femmes qui se sont investies depuis très longtemps. Quand vous avez dit dans le documentaire qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait s'investir dans l'activisme parce qu'il n'y avait pas de femmes, l'une des plus anciennes organisations, la NAACP que vous avez citée, au sein du comité fondateur de cette cette organisation pour les droits civiques se trouve Ida B. Wells, par exemple, qui est une journaliste qui a beaucoup œuvré pour rendre public les horreurs liées au lynchage du Sud. Et voilà, c'était une journaliste d'investigation et c'était une femme. Voilà, et elle fait partie des membres fondateurs de la NAACP.
Alors, restent les transports en commun. Alors, les transports en commun, par définition, c'est un air de partage. Vraiment.
Hein, oui, en théorie.
C'est moins qu'on puisse dire. Donc, c'est pour ça que ça se focalise, les problèmes se focalisent sur les transports en commun, et en particulier les bus, peut-être plus que les trains, je ne sais pas.
Ah, bah, alors, en fait, si on repart à Plessy v. Ferguson, c'était une histoire donc, qui s'est déroulée en Louisiane.
Et qui vient du train, pour le coup.
Et qui vient du train. Ouais, donc, le train, les bus, cette question des transports en commun, en fait, nous renvoie à cette question du partage de l'espace public. Donc, vraiment, c'est, la ségrégation, ça a été l'organisation durement codifiée de cette ségrégation. Mais cette ségrégation ne touchait pas seulement la sphère publique, elle touchait également la sphère privée. Les mariages entre noirs et blancs, les cohabitations entre noirs et blancs étaient également interdites. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que ce soit les bus, que ce soit les trains, ces deux endroits...
Ça se cristallise là.
Voilà, se cristallise là, parce qu'il faut gérer ces populations qui sont amenées à être en présence.
France Inter. Affaires sensibles.
Maboula Soumaoro, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à l'université de Tours. Vous connaissez bien cette période de l'histoire des États-Unis, on s'en est aperçu. Alors, le boycott des bus à Montgomery, c'est le moment où Martin Luther King devient une figure du mouvement pour les droits civiques. Alors, on pourrait se demander pourquoi lui, on a la réponse. Beaucoup de charisme, mais encore.
Pas seulement, c'est vrai qu'il y a une question de charisme, mais il a 26 ans. Vous avez raison de faire remarquer qu'il y a ce côté un peu extraordinaire. Il a 26 ans, il est inexpérimenté, il n'est pas de l'Alabama, il est de la Géorgie, mais quand même, Martin Luther King a une sorte de trajectoire déjà assez exceptionnelle. Il fait partie de la bourgeoisie africaine-américaine du Sud. Son père, comme je l'ai dit tout à l'heure, était pasteur, son grand-père également. Sa famille était à la tête d'une grande église en Géorgie, à Atlanta. Il a fait ses études de manière assez précoce dans l'université noire de Morehouse. Il a obtenu un doctorat de l'université de Boston. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui, d'emblée, avait quelques qualités exceptionnelles. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'au moment de la mise en place de ce boycott dans l'Alabama, il y a plusieurs pasteurs, leaders politiques donc, de l'époque, qui sont un peu, on pourrait les accuser aujourd'hui de lâcheté. Ils ne veulent pas s'embarquer dans cette, on va dire, dans cette initiative qui peut paraître comme controversée. Et ils se disent on va laisser le petit jeune y aller. Et comme ce petit jeune, enfin, comme il est jeune et qu'on ne le connaît pas, les enjeux ne seront pas les mêmes. Et si jamais cette initiative ne marche pas, il n'y aura pas trop de conséquences pour l'ordre établi. Il se trouve qu'ils se sont trompés de petit jeune, puisque ce petit jeune était un homme exceptionnel et au charisme incroyable que vous avez déjà décrit. Et donc, c'est vraiment la montée en puissance de Martin Luther King qui, lui, a fait preuve d'un grand courage. Et il faut vraiment insister sur le fait qu'il avait 26 ans, donc c'était un petit jeune.
Bien sûr. Et quel est votre regard, vous, sur cette action de boycott? C'est très pertinent.
Ah oui, alors l'action de boycott, elle est très impressionnante de par sa durée, c'est-à-dire, je crois, 382 jours au total. Un investissement vraiment total, encore une fois, de la population, parce que c'est pas seulement, on peut pas le décrire et comprendre le phénomène comme une sorte de action coordonnée menée par des activistes de profession. C'est vraiment des activistes de profession, effectivement, mais qui ont su embarquer une population. Et une population qui s'est organisée pendant plus d'un an autour de ce boycott. Donc vous avez... c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion populaire avec cette population africaine-américaine qui représentait 70% des usagers de cette compagnie de bus. Donc il y a vraiment eu la compréhension d'une sorte de rapport de force qui pourrait être se révéler être en la faveur de cette communauté. Donc, avoir compris ça, avoir tenu bon, s'organiser au niveau communautaire pour faire du covoiturage, pour les compagnies de taxi africaines-américaines qui ont joué le jeu et qui ont baissé leurs tarifs. Voilà, cet investissement si long, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel et qui, en plus, a remporté une victoire à la fin. Mais c'est assez rare, mais c'est quand même une belle histoire qui a coûté beaucoup à beaucoup de personnes. Mais je pense que cette idée de voir ou de vouloir croire en un avenir meilleur et commun sur le long terme, c'est quand même assez extraordinaire dans cette histoire. Donc la mobilisation collective qui porte ses fruits et en plus qui gagne à la fin, c'est ce qu'on voudrait tout le temps, non?
Je note au passage un point de vocabulaire africain-américain,
oui.
Il y a afro-américain.
Oui.
Pourquoi vous choisissez africain-américain?
Alors je choisis africain-américain aujourd'hui parce que c'est dans l'usage contemporain actuel, c'est ce qu'on entend, african-américain. Mm-hmm. Mais en vérité, il faudrait peut-être toute une émission pour dire l'historicité de ces termes.
Ouais.
C'est-à-dire que si on parle de cette période des années 50 et 60, on utilisait encore « negro », on utilisait encore, oui, je pense que c'était « negro » le terme,
oui.
Ou « colored ». Avant cela, avant « negro » and « colored », par exemple, à la fin du 18e siècle, on pouvait utiliser des termes comme « ethiopian », comme « abyssinian ». Donc, il y a toute une histoire de la terminologie.
Enfin, pourquoi « afro-américain » est devenu « africain-américain »
Je ne pourrais pas vous l'expliquer.
Okay. Mais j'ai dit afro-américain.
Oui, mais vous êtes dans l'ère du temps. Avant African-American, c'était afro-américain. Avant ça, c'était black. Avant ça, c'était colored. C'était negro. Enfin, il y a toute une...
Je suis d'accord.
Ça évolue.
Non, mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas un sens caché dans afro-américain ou africain-américain. Oui. Alors, on oppose souvent les figures de Martin Luther King et de Rosa Parks d'un côté et de Malcolm X de l'autre. Malcolm X, qui serait allé trop loin dans la violence, bref. Oui. Pourtant, dans son autobiographie, Rosa Parks exprime une forme de sympathie pour Malcolm X. Elle écrit « J'avais beaucoup d'admiration pour lui, connaissant son histoire, sachant d'où il venait. » Et elle note que quand il a été assassiné en 1965, il essayait de mettre sur pied une nouvelle organisation qui n'était pas fondée sur la haine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, cette opposition entre Martin Luther King et Malcolm X, elle a été inventée après coup. Il ne faut pas oublier que les deux, enfin, Malcolm X d'abord en 1965 et Martin Luther King en 1968, ont été assassinés. Donc, dans les années 60, on ne faisait pas tellement, comment dire, d'opposition si directe entre ces deux hommes, investis en politique, qui de toute façon luttaient, chacun à sa façon, pour l'octroi de droits, ou non, l'application de droits civiques.
Oui, c'est plutôt ça. En fait, c'est l'application.
C'est l'application,
oui,
puisque les droits avaient été obtenus en théorie. Et donc, quand on oublie que les deux ont été assassinés, qu'au moment de son assassinat en 1968, Martin Luther King est complètement décrié, rejeté, évidemment, par l'Amérique blanche, conservatrice, mais également parfois perçu comme un peu trop radical, un peu trop pressé par une sorte de bourgeoisie noire. Il a, comment dire, jeté un œil sur la politique extérieure des États-Unis. Il a rendu public son opposition à la guerre du Vietnam, par exemple. Il a posé des questions sur le fonctionnement capitaliste des États-Unis, et ça, c'était pas bien perçu non plus. Donc, cette opposition entre les deux, Malcolm X et Martin Luther King, elle est un peu factice.
Et elle est artificielle.
Elle est artificielle.
D'accord.
Voilà.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Mavoula Soumaoro.
Merci, Fabrice Drouel. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Rosa Parks, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Allard.